Les journées sont longues, la route est difficile, la marche est fatigante. Lorsqu'on découvre une oasis, c'est la fraîcheur, le repos. On se désaltère à l'eau de la source. Nos journées, nos semaines ressemblent parfois à des déserts. Alors le culte peut être une oasis pour étancher notre soif et apaiser nos tumultes. Nous sommes invités aujourd'hui à creuser un puits dans nos vies, dans nos journées, dans notre agitation, pour découvrir l'eau qui désaltère, qui rafraîchit, qui repose. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom, sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir recueillir cette eau dont nous avons besoin. Sois au milieu de nous, comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère, comme un baptême qui renouvelle. Amen. Bonjour à toutes et à tous pour ce culte, chers amis, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Sentez-vous accueillis. Marie-Yvonne et moi animerons le culte, accompagnés par l'orchestre de notre église. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Vous avez été accueillis par Frédéric et Pierrick. Nous chanterons donc, comme je vous l'ai dit déjà, avec le recueil de cantiques, puisqu'il n'y aura pas de projection. Et les cantiques sont affichés ici, et je vous annoncerai les spontanés et les cantiques. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le premier spontané, le 21-13, strophe 1. De nos habitudes et pourtant elle peut faire tellement de bien. J'exprime donc ma profonde gratitude pour la vie et sa force incroyable, toutes les surprises qu'elle nous réserve. Elle va, elle vient librement, rien ne l'arrête. Chacun de mes semblables qui me fait grandir, rire, sourire, pleurer, admirer, espérer, aimer et me bouscule intérieurement. Dame nature, qui m'émerveille et me ressource si souvent. Impossible de ne pas la remercier et te remercier pour tant de beauté. Chaque enfant, femme, homme, qui sans le savoir me renvoie un message fort sur le courage, les raisons de vivre qui en valent la peine. Ils me disent des mots vrais, merci à eux et merci à toi de les avoir mis sur mon chemin. Les écrivains, les musiciens, les artistes qui nourrissent ma foi et découvrir Dieu qui n'est jamais très loin. Source d'inspiration. Je l'espère, je le crois, je le loue. Merci. Amen. Et nous chantons le cantique 5109, vous bondirez de choix, page 825. Alors, on bondit de joie pour ceux qui peuvent.
Bonjour, bonjour les enfants. Donc c'est le moment avec vous. Mais les adultes, vous allez pouvoir participer aussi si vous avez envie. Alors, tout à l'heure, nous allons lire un extrait du texte de la Genèse. Donc les enfants ou les plus grands, est-ce que vous savez où ça se situe, le texte de la Genèse ? Plutôt au début, plutôt à la fin, plutôt au milieu, vous ne savez pas ? Alors, oui, j'ai entendu. Eva ? Oui, au début. Voilà, c'est le tout premier texte qui a été écrit dans la Bible, c'est le texte de la Genèse. Et dans ce texte, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, dans la Bible, il y a plein d'images et de symboles. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un symbole ? En fait, c'est quand on prend une image pour expliquer une idée. Alors, j'ai des exemples. D'après vous, c'est le symbole de quoi ? Oui, c'est un cœur, mais c'est pour dire quoi ? Je t'aime. Oui, c'est ça. Très bien. Vous avez tous vu ? Voilà, ça c'est le symbole. Donc, de l'amour, de l'amitié, enfin que des choses positives. Un autre symbole, la colère, oui, voilà. Donc vous voyez le genre, ce que c'est qu'un symbole, vous avez compris ? Alors, dans notre temple, même si les protestants, ils n'aiment pas trop les symboles dans les temples, dans notre temple ici, eh ben en fait, il y a des images. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de diaporama, pour que vous soyez concentrés sur ces images qui sont dans le temple, qui sont en fait des vitraux. Vous savez ce que c'est, les vitraux ? Oui, voilà, c'est tout ce qui est là. Donc, alors, petits et grands, vous allez essayer de m'expliquer ce que... Bah, qu'est-ce qu'ils sont marqués sur... Enfin, qu'est-ce qu'il y a sur ces vitraux et quels sont les symboles ? C'est un peu dur, hein, mais... Voilà, donc on va peut-être commencer sur celui-là, qui est au-dessus de la tête de Francine. Francine, elle a un foulard qui est assorti au vide, elle fait exprès. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui est dessiné ? Un buisson ardent. Oui, c'est le buisson ardent, direct. Ah, les petits. Très bien. Voilà, c'est direct, très bien. Les enfants, vous voyez, qu'est-ce que c'est pour vous ? Le feu ? Le feu, voilà. Donc, c'est en effet le buisson ardent. Donc, c'était. Tu sais ce que c'est le buisson ardent ? Il y en a qui savent ?
Tu peux t'avancer, il y a
un peu. Ouais, j'ai assez de films ?
Oui, oui, il y a un peu de marre.
Bon, bah, du coup, je vais aller vers les filles du quartier, les monitrices de quartier. Ah, voilà. Les jeunes. Allez, oh, le moniteur, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, le buisson ardent, voilà.
Le buisson ardent représente l'endroit où Dieu a parlé à Moïse.
Voilà, devant le buisson ardent. Il y a un buisson qui s'est mis à brûler, et puis en fait, il a toujours continué de brûler. Il s'est jamais arrêté, il y avait toujours du combustible, et il a toujours brûlé. Ben, comme là, ce feu, il est toujours là, tous les dimanches qu'on vient, il est là. Donc ça, c'est bien, hein, mais c'était un peu... Voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur le vitrail qui est juste en dessus de la tête de Gaëlle ? Alors, sinon, juste le ciel en bleu, là, avec un petit truc jaune.
Une colombe qui porte une branche.
Alors, ça te fait penser à quoi ?
Une branche d'olivier.
Et donc, c'est le symbole de quoi ?
De la paix.
Voilà, symbole de la paix. Et c'est donc c'est à quel endroit qu'on parle d'une colombe ? Il y a plein d'endroits avec des colombes, et puis il y a toujours des histoires de colombes, mais là, une colombe avec un rameau dans le bec, c'est qui ? Vous savez ?
Noé.
Très bien. Donc là, voilà, Noé. En dessus, qu'est-ce que c'est, les enfants là-haut ?
Un soleil.
Un soleil. Alors, est-ce qu'il est comme d'habitude, le soleil ? Il y a quoi de bizarre ? Qu'est-ce qui est différent dans ce soleil ? Oui, il est bleu au milieu. Alors, d'après vous, alors moi je n'ai pas la réponse à la question. D'après vous, pourquoi il y a du bleu au milieu du soleil ?
Du violet.
Du violet. Donc Francine, pourquoi il y a du violet ?
Pour moi, c'est le Saint-Esprit, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais on y voit ce qu'on veut. Hein.
On y voit ce qu'on veut.
Ah, il y a Andrea qui a une idée.
Andrea, t'as une idée, super. Parce que alors moi, j'ai... Ouais.
En fait, il me semble qu'une fois, j'ai écouté une explication des vitraux ici dans le temple et on avait expliqué que c'était la couronne que Jésus avait, parce qu'il y a des gouttes de sang au milieu du violet aussi, comme si c'était la couronne d'épines qu'il a portée.
Mais ça peut aussi être le Saint-Esprit et la force de l'amour. Donc.
Voilà, la force de l'amour, la couronne, voilà. Vous voyez que les symboles, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir plein d'interprétations et quand on lit la Bible... Il y a plein de symboles et on peut avoir aussi plein d'explications. Alors, à la suite, c'est un petit peu plus compliqué, les trucs qui suivent. Là, d'après vous, c'est quoi les trois autres fenêtres, là ? Il y a beaucoup de bleu, il y a du vert, il y a du violet.
Et du jaune.
Est-ce que ça vous fait penser à quoi ? La création, ouais, les arbres, les éléments, on peut dire l'air, la terre, les continents. Ah, Pierre !
Dans mon interprétation à moi, je vois un chemin dans celui-là, et puis dans l'autre, le pain et le vin.
Il n'est pas président pour rien. Hein. Est-ce que d'autres voient quelque chose ? Non, pas. Enfin, voilà. Francine m'avait dit, oui, il y a la colombe, et après, c'est la terre qui sort de l'eau. Et c'est le début du commencement de la fin du déluge. Voilà.
C'est quand l'eau se retire. Quand l'eau se retire, quoi.
Et il y a un soleil au milieu, mais ça peut être le pain, ça peut être un soleil, enfin voilà. Tout ça. Simplement pour vous dire que ces vitraux, on ne les voit pas, en fait. Vraiment. Si de temps en temps, quand le prédicateur ne nous intéresse pas trop, on regarde un petit peu ce qui se passe à côté. Mais voilà. C'est simplement. Pour les enfants, donc de vous dire que les symboles, actuellement on parle un peu en SMS, vous êtes trop petits, mais les plus grands avec plein d'émoticônes et de gifs qui sont aussi des genres de symboles. Mais derrière les symboles, il y a plein d'explications possibles, et c'est ça aussi qui est une richesse, et c'est la richesse du texte de la Bible. Voilà. Donc on va chanter le cantique 44-12 à la page 688. Et les enfants, vous pouvez chanter en même temps que nous, et quand au troisième strophe, vous pouvez partir dans, chacun dans vos groupes. Voilà.
Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever. Attendre que les enfants soient partis. Ils sont très silencieux, alors je vais commencer. Je partage avec vous ce texte d'Antoine Nouys, publié dans La Galette et la Cruche. Confession du péché. Si le premier pas de la prière est l'attitude qui consiste à être en vérité devant Dieu, nous devons reconnaître que notre vérité n'est pas pure. En nous cohabitent la foi et le doute, l'amour et la rancune, la générosité et la mesquinerie. Notre vie peut être comparée à une maison. Il y a des places publiques, le salon, la salle à manger, où on invite ses amis. On les soigne pour qu'elles soient accueillantes. Puis il y a les pièces plus intimes, la chambre, la salle de bain. Nous y séjournons souvent, mais nous n'y accueillons que nos intimes. Enfin, il y a les coins où l'on va rarement, car ils sont en désordre et ils nous font un peu peur. C'est la partie cachée de notre vie. Ce sont nos ténèbres, nos blessures, nos rancunes, nos prisons. La confession de ce qu'on appelle le péché, c'est l'acte qui consiste à ouvrir les volets des différentes pièces et de notre maison pour laisser entrer la lumière de Dieu. C'est lui ouvrir les parties cachées de notre existence afin que son pardon soit une guérison. Je vous invite à chanter « Veux-tu naître de nouveau ?» le 43-14. Page 652.
Ah.
nous partageons avec vous cette prière attribuée à Mère Teresa. La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est riche, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Nous chantons le spontané 4408. Pour aujourd'hui, je sois libre. Qui a annoncé la parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils. Par ton esprit, rends ces textes vivants pour qu'ils deviennent pour nous ta parole. Amen. Je vais lire aujourd'hui 4 textes et je vous annoncerai au fur et à mesure d'où ils sont extraits. Mais de Genèse pour commencer. Genèse 2, du verset 7 à 9. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Je lis maintenant dans Genèse 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu le sait. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons, et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et en mangea. Puis elle donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux, tels qu'ils étaient, Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils en firent comme une sorte de pagne. Et maintenant, dans Romains 5, je lis les versets 12 à 19. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul humain, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam et qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'ébauche de celui qui devait venir, mais la faute d'Adam n'était pas comparable et importante au don gratuit de Dieu. N'était pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la faute de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est plus grande et son don bien plus important. À beaucoup, ce don est offert gratuitement grâce à un seul, Jésus-Christ. Et ce don de Dieu a un autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a exercé son pouvoir par la faute d'un seul à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes sont rendues justes. Et enfin, dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit « L'Écriture déclare « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. » Jésus lui dit, l'Écriture déclare aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient.
Le texte de la Genèse et le texte de l'évangile de Matthieu, que vient de lire Francine, ont au moins deux points communs. Ce sont des textes extrêmement connus et ils parlent tous les deux de la tentation. Dans la Genèse, on peut dire que le serpent, qui symbolise Satan, même si le nom n'est jamais évoqué, utilise les grands moyens pour influencer Ève. Il est manipulateur, il renverse les choses en sous-entendant que Dieu ment à Adam et Ève et qu'il leur veut du mal. Le serpent prête des intentions à Dieu qui sont inversées. Il promet à Ève la connaissance et il ôte tous les doutes d'Ève et a réponse à toutes ses interrogations. Mais en réalité, qui est vraiment le tentateur ? Il apparaît que c'est le serpent qui est le tentateur, alors que dans la coutume, on est toujours resté sur Ève, la tentatrice. Ève, elle est plutôt crédule, naïve et curieuse. Le texte dit que c'est Ève qui mange la première, le fruit de l'arbre de la connaissance. Je note qu'il y a eu de nombreuses dérives sexistes derrière cet épisode, et donc je pense sans me tromper que ce sont bien des rédacteurs qui ont rédigé ces textes et pas des rédactrices. De quoi parle-t-on dans ce passage ? Que ce soit Ève ou Adam, peu importe, on parle ici des humains. Cet épisode dit du fruit défendu a été écrit pour expliquer pourquoi les humains ont failli dans ce que Dieu aurait voulu initialement, c'est-à-dire que l'humanité vive en harmonie avec le monde dans lequel elle évolue. Il faut donc expliquer la chute, les raisons de cet échec. Et d'ailleurs, les chapitres 2, 3 et 4 de la Genèse soulignent cette descente continue. Ainsi, de vis-à-vis, d'égal à égal, à la fin du chapitre 3, il est écrit au verset 16 qu'Adam dominera Ève. Il est écrit, je cite, « Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » De plus, à la fin de ce chapitre, Adam et Ève auront honte de leur nudité et devront se cacher aux yeux de l'autre. L'égalité et l'harmonie sont rompues. Il en va de même pour le monde végétal et animal qui devient hostile à l'homme. Dieu promet à Adam une vie rude au contact d'un monde végétal et animal difficile à maîtriser. Et cette descente se parachève par le crime fratricide des deux enfants d'Adam et Ève, Caïn tuant Abel. Ce texte fondateur de la Genèse souligne la faiblesse des humains face à leur souhait de grandeur. C'est la contradiction intrinsèque de l'humanité. C'est parce que, in fine, Ève et Adam avaient envie d'avoir la même puissance que Dieu qu'ils ont mangé des fruits de l'arbre de la connaissance. Ces fruits si tentants, ayant une belle apparence, et somme toute, nous dit-on, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligents. Dans l'extrait de l'évangile de Matthieu, lu ce matin, Jésus est lui aussi tenté. Jésus, l'homme, est tenté par le diable, explicitement nommé ici. Mais là, on peut dire que Satan est tombé sur un os. Face à sa perfidie et sa manipulation, Jésus est un roc. On dirait qu'il reste de marbre. Il est intéressant de voir la différence de style dans le dialogue entre le diable d'un côté et Jésus de l'autre. Le diable commence toutes ses phrases par « si tu es le fils de Dieu » ou « si tu te prosternes devant moi ». Il se cache derrière des suppositions, du conditionnel ou du donnant-donnant. Et c'est l'inverse qui est mis dans la bouche de Jésus. Jésus pose ses réponses sur des affirmations et sur une doctrine certaine. Il commence chacune de ses réponses par « l'Écriture déclare ». C'est la parole de Dieu. Le fondement de sa réponse est « adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul ». Jésus, affaibli par ses 40 jours dans le désert, reste ferme et centré sur l'essentiel. On dirait maintenant « focus sur l'essentiel ». Il montre sa force, il gagne. Il est écrit « le diable laissa ». Donc une fois de plus, c'est bien le diable qui est le tentateur. Alors, Pourquoi a-t-il fallu attendre mai 2016 pour que nos églises chrétiennes changent les paroles du Notre Père? En effet, dans cette prière, depuis cette date, nous ne demandons désormais plus à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, mais nous lui demandons dorénavant de ne pas nous laisser entrer en tentation. Et donc, il nous semblait intéressant de partager sur ce sujet ce matin en reprenant une des multiples explications qui a eu lieu à l'époque, mais là c'est l'explication du pasteur Pernaud. Je cite « Le synode national de l'Église protestante unie de France a décidé en mai 2016 de suivre l'initiative de l'Église catholique et de changer la traduction de la sixième demande du Notre Père dans son usage liturgique. Depuis le consensus écuménique de 1966, donc juste après Vatican II, il a été décidé que protestants, catholiques, se mettent d'accord sur une traduction commune pour avoir toujours la joie de pouvoir dire le Notre Père ensemble. Mais la plupart des théologiens, catholiques comme protestants, s'entendaient pour dire que cette traduction ne nous soumet pas à la tentation, comportait vraiment un contresens. Ça laissait supposer que Dieu puisse être à l'origine du mal, et donc maintenant il a été accepté et proposé de remplacer cette demande par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». « Ne nous soumets pas à la tentation » posait problème, car ça laissait penser que c'était Dieu le tentateur. Or le tentateur, c'est le diable. Et Dieu, sans doute, nous respecte trop pour vouloir jouer à nous tenter. Comme certains bourgeois le faisaient avec leurs bonnes, en laissant traîner visiblement quelques pièces d'argent dans la maison pour tester l'honnêteté. Dieu connaît les cœurs et n'a pas besoin de nous envoyer des difficultés supplémentaires à celles que nous impose la vie, juste pour voir si nous tiendrons bon. Et puis le mot grec de la tentation, c'est « perasmon » qui signifie aussi « l'épreuve ». Or, penser que Dieu puisse être à l'origine de nos épreuves semble bien complètement contraire à l'idée du Dieu bon et plein d'amour que nous révèle Jésus-Christ. Certainement, Dieu n'est pour nous source que de bien et pas de mal. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner avec confiance vers lui. Certains théologiens veulent maintenir l'idée que la tentation ou l'épreuve pourrait, ou au moins en partie, être parfois à l'initiative de Dieu. C'est vrai qu'on trouve ceci, par exemple, dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu tente Abraham dans la Genèse pour lui demander le sacrifice de son fils. Ce sont ces pratiques archaïques qui ont été dénoncées par Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, la chose est claire. Dieu n'est jamais à l'origine du mal. Il n'est source que du bien. On en trouve aussi des passages absolument clairs dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par personne. C'est la cohérence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'amour, de paix, de douceur et de miséricorde. Il ne peut être source que de bien et en aucun cas, jamais, la source directe du moindre mal dans le monde ou dans nos vies. Et dans ce sens, la nouvelle traduction proposée est bien meilleure que celle à laquelle nous étions habitués. Jamais Dieu ne peut nous éprouver ou nous tenter. Il n'est là que pour nous aider à ne pas succomber dans l'épreuve ou la tentation. De plus, Dieu n'a pas besoin de tenter ou d'éprouver. Vivre, c'est de toute façon être sans cesse éprouvé. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas que Dieu nous éprouverait plus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous permet de pouvoir être joyeusement victorieux. Ce n'est pas qu'il chercherait à nous déstabiliser par des tentations supplémentaires, mais au contraire, qu'il nous donne dans nos cœurs la force de vaincre et de surmonter. Il nous donne la confiance et la paix. Alors oui, la traduction « ne nous soumet pas à l'intention » semble être une absurdité par rapport à la bonne nouvelle de l'Évangile. D'un point de vue théologique, mais aussi linguistique, le mot soumettre, ne se trouve pas dans le texte original, car le verbe, alors, eisenknall, ne signifie pas soumettre, mais simplement entrer, comme on entre dans une maison ou dans une chambre. C'est le verbe qui est utilisé dans l'évangile de Luc, par exemple, au moment de l'épisode du paralytique, que ses amis font entrer dans la maison où Jésus se trouvait. Il est donc bien question d'entrer dans l'épreuve, plus que d'y être soumis. Le sens est plutôt donc « ne nous fait pas enfermer dans l'épreuve », fait que nous ne soyons pas pris dans l'épreuve comme enfermés dans une prison. Cette sixième demande du Notre Père nous rappelle que Dieu est la source de notre vie, notre recours dans notre faiblesse, notre rocher quand tout semble vaciller, notre force quand nous nous sentons faibles. Dieu est celui qui ouvre une fenêtre vers le ciel dans notre cellule de prisonnier, et même plus cette fenêtre qui nous voit voir la lumière, la liberté et la joie. Il la transforme en porte que nous pouvons franchir. Je trouvais vraiment intéressant de partager avec vous cette explication. L'Évangile nous appelle à nous mettre en marche, à oser, mais sans être sous influence. Et là, les jeunes qui n'avaient pas forcément tout écouté ce que j'ai raconté, c'est vraiment pour vous. Soyez des followers de l'influenceur Jésus. Les tentations, les tentateurs sont multiples, toujours aussi insidieux, toujours aussi manipulateurs, toujours aussi perfides, aussi là pour flatter dans une logique de donnant-donnant et de promesses. Aussi, rappelons-nous que Dieu est celui qui libère, qui ouvre le chemin des possibles, qui nous fait confiance et qui est là, à notre côté, chaque jour et en toutes circonstances. Amen.
Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le 47-21. J'ai besoin de ta confiance, page 752.
J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour.
nous restons debout pour la confession de foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons ensemble notre foi en disant d'une même voix la confession de foi numéro 7 que vous trouverez sur les recueils de chants à la fin. C'est le feu, sur le feuillet blanc. Le feuillet annexé. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'homme. Je crois qu'il a créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple. Le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'homme est déjà renouvelé, mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour jusqu'à ce que Jésus devienne à nous, semblable à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre. Prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner. La joie profonde qui est contenue dans le geste du don. Don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes. Véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans réclamer en retour. Que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage et du don gratuit.
Thank you.
Merci Éternel pour ces gestes de don que tu suscites en chacun de nous, chaque jour et à ton service. Amen. Et Frédéric, tu t'es assis, mais c'est le moment des annonces.
Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par les remerciements. Donc, merci à Marie-Bonne et Francine d'avoir conduit ce culte. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci à notre orchestre. Toujours une joie de vous écouter, de nous accompagner. Merci à Pierrick d'avoir assuré l'accueil. Donc quelques annonces, j'espère que j'ai... Ah si, merci à vous tous aussi d'être là. Toujours aussi une grande joie. Donc, les annonces. Mardi, il n'y aura pas de chorale. Mercredi, c'est la prière, donc à partir de 18h. Le week-end prochain, il y aura le week-end scout. Ils vont se retrouver donc au temple le samedi et le dimanche. Ensuite, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès de Bernard Deschamps, donc qui était l'époux de Colette Deschamps. Donc la cérémonie aura lieu le jeudi de mars au crématorium des Îles. Ensuite, nous avons Charlotte qui a envoyé une invitation à la Lectio Divina. Donc, c'est tous les lundis à partir de 18h. C'est une réunion Zoom. Prochainement, vous aurez les informations ce week-end sur les modalités pour se connecter. Voilà. Ensuite, je rappelle qu'il y a le mois de la Bible. Donc, il y a des brochures qui sont à disposition sur les présentoirs. Donc, il y a ça. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée, il y a beaucoup de livres. C'est le CERA qui organise une grande braderie du livre. Donc, c'est pour faire la place, en fait, aux nouveaux livres qui sont offerts à l'association. Donc, nous vous invitons, en fait, allez explorer un peu tous les livres qu'il y a. Prenez ceux qui vous intéressent. Il y en a qui sont vraiment... J'ai regardé tout à l'heure, c'était assez intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie de donner un petit quelque chose pour encourager l'association, n'hésitez pas non plus. Vous verrez, il y a un petit panier à la sortie. Mais c'est selon vos envies, vos besoins, vos capacités. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je reviens sur le voyage que propose Mo, qui est sur pour pouvoir participer au culte du désert. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Mo et de Richard pour vous inscrire. Ensuite, il y a l'annonce de l'AG. Donc, je vous rappelle que l'AG, c'est le 19 mars et vous allez recevoir par mail la convocation avec l'ordre du jour corrigé et aussi en pièce jointe un pouvoir si vous ne pouvez être présent. Je rappelle que, en fait, vous ne pouvez. Une seule personne peut recevoir un pouvoir pour l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y a autre chose à ajouter? Non. Bon, ben voilà. Merci à tous. Oh, pardon Nadine. Je devais lui donner la parole, c'est pour le prochain culte famille.
Bonjour à toutes et à tous. Simplement vous rappeler deux choses. Il y a un week-end KT qui est organisé par le consistoire. Donc l'info, on peut la donner plein de fois, donc je la redonne. Vous l'avez reçue par mail, les parents qui sont concernés. Et puis il y a aussi des papiers, il y a même la fiche sanitaire, donc tout est là, donc voilà, on peut remplir, s'inscrire, c'est toujours un moment sympa d'aller un week-end avec d'autres jeunes, parce que ça, On se dit, ah tiens, il y en a d'autres, dans d'autres paroisses. Ah, je ne suis pas seule sur Terre à faire un truc bizarre au quai. Voilà. Après, il y a Week-end Bible et Famille aussi. Alors, je n'ai pas vu le tract, enfin bref. Donc, j'ai fait un tract à ma sauce. Hein, voilà, avec, je ne sais pas combien ça coûte parce que je n'ai pas l'info. Voilà, mais c'est pas grave, c'est très chouette. Et c'est le 21-23 avril 2023, donc de cette année, c'est un temps fort aussi. Là aussi, c'est pas souvent qu'on a du temps en famille pour parler de Dieu, tout ça, enfin de notre foi. Donc le thème cette année, c'est « J'ai pas la foi, je crois ». Voilà, pas mal. Donc voilà, j'ai des papiers, désolé pour la planète, mais il est recyclé. Et puis, après le culte, il y a la deuxième rencontre du groupe des personnes qui soit demandent le baptême pour elles-mêmes, soit sont en recherche et pour demander le baptême de leurs enfants. C'est pas parce qu'on n'a pas été à la première rencontre qu'on ne peut pas venir à la deuxième. C'est largement ouvert à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui se posent la question, peut-être ne sont pas baptisés, se disent « Tiens, au fait ». Voilà, donc cette fois-ci, on va parler de la Bible. C'est un peu une catéchèse d'adultes, voilà, on va dire ça comme ça, mais c'est un grand mot. Donc on va parler de la Bible, c'est-à-dire... comment elle a été écrite, quand, comment la lire, quelques outils, voilà. Ça, c'est après le culte, on prend le temps d'un repas partagé après, pendant, voilà, on peut venir avec ses enfants. On se retrouve en bas, dans la grande salle. Merci aux cathés de nous prêter leur salle, c'est trop bien. La dernière fois, on était nombreux dans la toute petite salle, là. Donc c'était un peu compliqué avec les enfants. Voilà!
Merci à Nadine et merci à Frédéric pour cet exercice toujours compliqué des annonces. Je reprécise l'heure de la cérémonie la cérémonie funèbre. C'est 11h. Je crois que Frédéric ne l'avait pas dit. Réjouissons-nous les uns les autres pour les autres par la prière. Prions pour ceux qui cherche Dieu à tâtons, qu'il le trouve. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'il le cherche. Pour ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent le chemin. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils se sentent vulnérables. Pour tous ceux qui vivent dans le monde entre l'espoir et la peur, pour nous-mêmes, prions Dieu. En ces temps de guerre si proches de nous, délivre-nous de la peur paralysante et glaçante et donne-nous la force de la surmonter. Amen. Je ne suis jamais seule lorsque je prie le Notre Père. Je pense aux millions de bouches qui ont prononcé ces paroles avec foi, les ont rendues vibrantes et vivantes. Aussi, ne suis-je jamais seule et sans espérance lorsque cette prière donnée par Jésus résonne pour tout mon corps et mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière d'exhortation. Dieu seul peut créer, mais il nous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il appartient d'être un signe de Dieu pour nos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il vous appartient d'apprendre à aimer nos frères et sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il vous appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il vous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il vous appartient de la faire briller pour vos frères et sœurs. Dieu seul peut faire les miracles, mais il vous appartient d'apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun, chacune de nous. Amen. Seigneur, que ton esprit se répande partout, qu'il remplisse le cœur des humains, la bouche des humains, les yeux des humains, les maisons des humains, et qu'il vienne sur chacun de nous ici, et que tout ton amour sans fin nous accompagne. Et que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons la paix du Seigneur, 62-83, page 1008. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du ressuscité, la paix du Seigneur, à toi, à moi et à tout sera donné. La paix du Seigneur, à toi, à moi et à tout sera donné. Seigneur, passez un bon dimanche et une bonne semaine.